de partager avec vous cette parole fraternelle, je voulais vous laisser aussi une information, une joie aussi d'ailleurs. Même si ça ne suffit pas pour ce que nous espérons, c'est à propos de notre sœur Anne et aussi de Jean-François. Sachez qu'elle espérait depuis longtemps que sa maman qui vit en Afrique puisse venir être auprès de sa fille. Cela est fait depuis, je pense, aujourd'hui, peut-être ce matin ou tout à l'heure, mais en tout cas voilà, la démarche a été compliquée, difficile, mais elle a obtenu un visa, alors certes assez court, ils espèrent pouvoir peut-être le prolonger, mais voilà, on peut être reconnaissant au Seigneur qu'il ait permis cela, parce que les autorités françaises, là-bas au pays, n'avaient pas l'air de vouloir permettre à cette maman d'être auprès de sa fille qui était très malade. Et surtout, continuons d'espérer, de prier, parce que nous savons que Dieu est souverain, y compris sur la maladie, qu'il peut toutes choses. Et donc, surtout, ne doutons pas de cela et persévérons avec foi dans la prière pour notre sœur, pour notre frère aussi à ses côtés. Et parce que c'est peut-être aussi, quelque part, une épreuve que Dieu veut pour nous. Il éprouve notre foi, là aussi, dans la maladie de notre sœur. Voilà. Et réjouissons-nous pour cette bonne nouvelle de la présence de sa maman. J'aimerais maintenant, effectivement, partager avec vous une parole fraternelle. Et avant de venir en plein dans le sujet, savez-vous qu'aujourd'hui, d'éminents chercheurs ont découvert très récemment que l'humanité est divisée en deux groupes. Je vous le dis comme ça, hein. Vous sentez que c'est pas tout à fait juste et vrai, mais d'un côté, il y a ceux qui aiment les mathématiques. Et de l'autre côté, il y a ceux qui ne s'entendent pas du tout avec les chiffres et leur maniement. Je sais pas où vous voyez déjà, je vais vous aider un peu s'il le faut. Mais blague mise à part, il faut avouer que le monde des mathématiques est un petit monde en soi, avec son langage bien à lui, ses expressions, son humour très particulier aussi, ses figures, je parle de personnes qui ont marqué aussi l'histoire de cette science qui a permis l'élaboration de beaucoup de choses, y compris pour vous d'avoir un téléphone avec lequel vous jouez chaque jour. C'est grâce aux mathématiciens, si on en est là aussi. Je vous propose un tout petit test avant de clore cela et d'en arriver au texte qui m'intéresse, mais faisons un petit test ensemble pour voir si vous êtes de la fameuse tribu des matheux, de ceux qui aiment vraiment les mathématiques. Je vais vous soumettre deux dictons qui apparemment font surtout rire les adeptes des mathématiques. Alors si vous avez envie de sourire, voire de rire, alors très certainement vous en êtes. Sinon, si vraiment cela vous passe au-dessus de la tête, vous dites « pourquoi ce serait drôle ça ?» Sinon, rassurez-vous, vous êtes quelqu'un de tout à fait normal. Premier dicton. Écoutez bien. Plus il y a de gruyère, plus il y a de trous. Et plus il y a de trous, moins il y a de gruyère. Donc, plus il y a de gruyère, moins il y a de gruyère. Je vous laisse voir. Voilà, quelques-uns se reconnaissent déjà. Deuxième dicton, un peu différent celui-là. En essayant continuellement, on finit par réussir. Donc, plus ça rate, plus on a de chances que ça marche. Voilà, bon, ça c'était pour essayer d'introduire le texte que j'aimerais partager avec vous. Vous en faites pas, on va pas faire beaucoup de maths, mais un petit peu quand même. Pourquoi je vous dis cela ce matin? Tout simplement pour vous échauffer, vous préparer aux petits problèmes de mathématiques auxquels nous allons faire face ensemble. Car nous allons voir un grand classique. Quelque chose même qui fait partie des fondamentaux. Alors bien sûr, je parle ici de notre foi. Je ne vais pas aller regarder à Thalès ou Pythagore que j'ai déjà pas mal oublié, je crois, en plus. Donc je n'oserai pas vous faire une démonstration. Et l'intitulé de notre problème de maths ce matin se trouve en Matthieu 18 et au verset surtout 21 et 22, mais nous allons continuer notre lecture jusqu'au verset 35. Donc je vous redonne le passage que nous allons lire, là où se trouve a priori peut-être ce petit exercice de mathématiques. Matthieu chapitre 18, à partir du verset 21. Et ce sera dans les versets 21 et 22 surtout que je vais m'arrêter et méditer, mais nous allons quand même aller jusqu'au verset 35, qui quelque part nous apporte une belle illustration aussi de ce que Christ veut nous dire ce matin. Même si certainement nous l'avons déjà entendu, mais ce genre de choses est toujours bon d'être réentendu et rappelé. Alors Matthieu 18, à partir du verset 21, et nous irons jusqu'à la fin du chapitre tout simplement. Voilà, si nous y sommes, je vous invite à écouter sa parole. Je vais lire dans la traduction que je préfère en général, la traduction dite au semeur. Écoutons sa parole maintenant. Alors, Pierre s'approcha de Jésus et lui demanda : « Seigneur, Si mon frère se rend coupable à mon égard, combien de fois devrais-je lui pardonner? Irai-je jusqu'à 7 fois? Non, lui répondit Jésus. Je ne te dis pas d'aller jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. En effet, il en est du royaume des cieux comme d'un roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs. Lorsqu'il commença à compter, on lui en présenta un qui lui devait 60 millions de pièces d'argent. Comme ce serviteur n'avait pas de quoi rembourser ce qu'il devait, son maître donna ordre de le vendre comme esclave avec sa femme et ses enfants, ainsi que tous ses biens pour rembourser sa dette. Le serviteur se jeta alors aux pieds du roi et se prosterna devant lui, supplia. « Sois patient envers moi, accorde-moi un délai, je te rembourserai tout !» Pris de pitié pour lui, son maître le renvoya libre, après lui avoir remis toute sa dette. À peine sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons de service qui lui devait 100 pièces d'argent. Il le saisit à la gorge en criant « Paie-moi ce que tu me dois !» Son compagnon se jeta à ses pieds et le supplia. « Sois patient envers moi, lui dit-il. Accorde-moi un délai et je te rembourserai. » Mais l'autre ne voulut rien entendre. Bien plus, il alla le faire jeter en prison en attendant qu'il ait payé tout ce qu'il lui devait. D'autres compagnons de service, témoins de ce qui s'était passé, en furent profondément attristés et allèrent rapporter toute l'affaire à leur maître. Alors, celui-ci fit convoquer le serviteur qui avait agi de la sorte. « Tu es vraiment odieux ?» lui dit-il. « Tout ce que tu me devais, toi, mon serviteur, je te l'avais remis parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas, toi aussi, avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi ?» Et dans sa colère, son maître le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il ait remboursé toute sa dette. Voilà comment mon Père Céleste vous traitera, vous aussi, si chacun de vous ne pardonne pas du fond du cœur à son frère. Et nous arrêtons là notre lecture autour de ce passage. Alors c'est un texte connu, très très connu. Mais pour autant, le texte sur lequel nous sommes arrêtés ce matin, bien évidemment, nous en voyons tout de suite la thématique forte, touche au pardon. Mais ce sur quoi je veux m'arrêter, moi, plus encore, plus que la parabole, c'est l'échange entre le Christ, Jésus, et son disciple, l'apôtre Pierre, qui m'interpelle ce matin. Notamment la question que pose l'apôtre à son maître. Une question qui sera un peu comme notre énigme mathématique pour aujourd'hui. Mais surtout, et sans humour cette fois, un questionnement qui nous touche tous, tour à tour, face à ce défi quasi quotidien que de pardonner à tout à chacun. Ne nous cachons pas, le pardon nous est encore parfois trop souvent difficile, en maintes circonstances, à un point tel que lorsque nous y sommes parvenus, lorsque nous pouvons et nous arrivons à pardonner, j'ai parfois l'impression que nous nous sentons soulagés, non pas parce que nous goûtons alors aux prémices de la réconciliation, mais parce que nous pouvons le vivre tel un exploit. J'y suis arrivé. Yes ! Plus ou moins. Oui, le danger nous guette de considérer notre pardon tel le fruit de notre bonne volonté, de notre effort, voire même, pourquoi pas, de notre sagesse. Qu'est-ce que je suis pas si mal que ça, en fait hein. Enfin, j'exagère, mais on peut le vivre un peu comme ça, parfois, notre pardon. En bref, quand nous y parvenons, nous aimons apprécier l'effet que cela peut avoir en nous, sur nous, comme si nous le méritions, comme si nous avions fait vraiment quelque chose de merveilleux. Tel presque un chef-d'œuvre que j'aurais peint moi dans la chapelle Sixtine. Bon, on n'en est pas encore tout à fait là, mais parfois on le verrait presque comme ça. Or certes, j'exagère. Mais n'est-ce pas un peu cela ce que Pierre fait entendre lorsqu'il interroge son maître, Jésus? Il lui pose la question et en même temps il lui fournit sa propre réponse, dont il attend, j'ai l'impression aussi là, dont il attend avec enthousiasme, peut-être même fierté, l'approbation. Récoutons Pierre, qu'est-ce qu'il dit? Seigneur, si mon frère se rend coupable à mon égard, Combien de fois devrais-je lui pardonner? La question est légitime, très bonne. Et puis la réponse qu'il propose, irais-je jusqu'à 7 fois? Et je pense, Pierre, là, croit avoir saisi la bonne réponse. Mais avant de regarder un peu à sa réponse, plongeons-nous un petit peu dans le passé, dans cette époque où Pierre a cette parole avec le Christ. Sachez que d'autres maîtres, ceux qu'on appelle les rabbis, d'ailleurs c'était aussi comme ça que parfois on voyait Jésus hein, dans cette époque, sachez que des rabbis juifs discutaient en ce temps-là à la question du pardon, tout en cherchant aussi à favoriser la sincérité. C'est pourquoi d'ailleurs ils avaient pour certains recommandé de ne pas aller au-delà de 3 fois pour une demande de pardon, parce que la 4e et plus semblait suspecte. On se demandait si la personne était vraiment sincère quand elle n'arrêtait pas de demander pardon ou d'exprimer son pardon. Aussi, très certainement, Pierre, qui est au fait de ce genre de regard, de cette manière de voir les choses, par la réponse qu'il offre au Seigneur, ou du moins par la proposition qu'il donne à son maître, pense faire acte de générosité. 7 fois, propose-t-il. 7 fois, un nombre de fois bien supérieur à ce que certains rabbis de l'époque proposent. Mais plus encore, un nombre de fois qui fait écho et renvoie même à la perfection divine. D'arriver à pardonner 7 fois, c'est être presque semblable à Dieu. Bon, j'exagère, mais n'y a-t-il pas un peu de cela dans l'esprit de Pierre quand il s'adresse ainsi à Jésus ? Pierre était probablement persuadé d'avoir proposé la meilleure des réponses qu'il soit à son maître. Je ne pense pas qu'il cherchait à l'épater, mais il voulait montrer à quel point il commençait à comprendre ce que Jésus attendait de lui. Et effectivement, très humainement, on pourrait se dire qu'il n'y a pas mieux que d'imaginer de pouvoir pardonner 7 fois quelqu'un. Pourquoi pas? Et pourtant, Pierre se trompe. Il se trompe car, en faisant cela, il fait avant tout une chose. Il pose une limite. Oui, il pose une limite, bien que jouant certainement de la symbolique, fût-elle même celle de la perfection. Et c'est bien pour cela que Jésus lui répond par ce que je vais appeler une formule de calcul. Bon, elle n'est pas tout à fait élaborée, mais une formule dont d'ailleurs nous trouvons une petite note parfois dans nos Bibles en bas de page. Je ne sais pas si vous avez été regardé, s'il y avait en tout cas quelque chose qui disait cela, qui dit la possible hésitation dans la traduction du texte entre 70 fois 7 fois, ce que j'ai lu, et puis parfois ailleurs, proposition de 77 fois. Bon, bref. Certains même ont cru voir si c'est plutôt cette dernière hypothèse qui est retenue, 77 fois, qu'on y verrait une allusion à l'attitude d'un certain personnage biblique, très ancien, Lémèque, un descendant de Caïn, un homme ô combien violent qui se félicitait même d'avoir tué un enfant, et qui exprime en Genèse 4, verset 24, sa vengeance sans limite. Parce que Dieu, à Caïn, quand il est banni, quand il est chassé, demande la protection de Dieu et Dieu lui accorde quelque chose. Et Lémèque fait référence à cela en disant « Caïn sera vengé 7 fois et moi 77 fois ». C'est un fou furieux. Alors, est-ce qu'il y a là un jeu qui joue à cela? J'en sais rien, et peu importe en fait. Laissons cette peut-être divagation de théologien pour plus tard, et revenons au Christ, en nous demandant ce qu'il cherche à dire à son cher apôtre, à son ami, à Pierre. Et regardons à ce qu'il dit justement. « Je ne te dis pas d'aller jusqu'à 7 fois », il reprend ces termes, mais jusqu'à 70 fois, 7 fois, c'est très certainement la bonne traduction, dit Jésus. Et on peut déjà percevoir chez le maître, chez Jésus, une pointe d'ironie. Il joue, il reste dans le langage qu'emploie Pierre. Une ironie qui a pour but de faire entendre à Pierre quelque chose d'essentiel. Mais plus encore, Jésus, en jouant avec les chiffres, est en train de dynamiter toute l'arithmétique de Pierre, ou tout du moins sa logique qu'il croyait généreuse, voire même qui tendait vers la perfection. Et Jésus, en lui répondant ainsi, lui fait donc entendre que le pardon ne peut à proprement
pas se quantifier. Que le pardon n'est pas un acte dont la mécanique peut se contenir dans une règle bien décrite. Qu'il faudra le contenir ou lui poser une limite face à l'autre qui s'égare et demeure éloigné du Père. Dans les versets qui précèdent, il y a tout cela aussi qui est évoqué, mais je le laisse. Autrement dit, pour essayer de peut-être mieux le résumer, le pardon n'appartient pas à cette logique, n'appartient pas à cette arithmétique, car il est plus que tout, non pas une règle, mais une disposition du cœur. Peut-être pour le dire encore autrement et mieux, je l'espère, le pardon est une composante de l'amour que Dieu nous invite à vivre au quotidien dans sa grâce. Je vais essayer encore de le redéfinir pour essayer de dire ce qu'est le pardon, tel que je le comprends bibliquement. Le pardon est, et même, j'oserais le dire, le propre de l'identité chrétienne. Si nous ne savons pas pardonner, qui sommes-nous vraiment ? Cette caractéristique fondamentale qui fait de nous ce peuple régénéré, ce que parfois dans d'autres continents on appelle les born again. Et c'est bien pour cela que notre pardon ne peut pas obéir à une logique quantitative. Je pense avoir suffit aujourd'hui. Ce n'est pas une tâche ménagère ou un devoir comme au travail. Ainsi, le pardon, s'il ne peut suivre une telle logique bien humaine, celle que Pierre ébauche, pensant pourtant avoir trouvé la bonne réponse, pensant avoir compris ce que Dieu attend de lui, c'est parce qu'il trouve sa source, sa définition, et là je parle du pardon, dans l'œuvre unique du Christ à la croix. Lui qui a tout pardonné une fois pour toutes. Le pardon du Christ est un pardon absolu. L'unique exemple de pardon qui doit inspirer le nôtre en toutes circonstances. Et Jésus, dans ce dialogue avec Pierre, invite tout bonnement son apôtre, mais aussi bien sûr chacun de nous, à passer de ce qu'on peut appeler la finitude, quelque chose qui reste très limité, même si on croit qu'il est absolu, à la perfection. Oui, il nous invite vraiment de passer de la finitude de nos propres petites conceptions à la perfection. Alors vous allez me dire, comment pouvons-nous y arriver ? Sommes-nous capables de la perfection, nous ? Il nous invite à faire sauter toutes nos limitations pour arriver à pardonner sans limite aucune. Et c'est là que ça devient compliqué. Pas de limite. À ne pas légiférer notre pardon et tenter d'y apporter une quelconque condition. Je te pardonne, si, bon, etc. Il n'y a même pas besoin de le dire. Parfois, c'est au plus profond de nous-mêmes et on n'en est pas tout à fait conscient. Mais alors, le dire ainsi et de dire notre pardon doit être sans limite, de ne plus avoir aucune condition, semble quand même quelque chose d'inatteignable presque. Comment y parvenir s'il y a des situations de pardon qui semblent aisées? Il y a parfois des situations où le pardon est attendu, soit de notre côté, soit de l'autre côté, ou voire même des deux très souvent. Et nous nous disons face à une telle situation, comment je peux y arriver? Comment puis-je parvenir à pardonner à cette personne au vu de ce qu'elle m'a dit ou fait ou depuis tout ce temps? Bref. Comment arriver à pardonner en toutes circonstances, pourrions-nous nous demander? Là, c'est presque ambitieux. Comment être tel le Christ lui-même, si du moins cela est possible? Seriez-vous à même de me dire? Le programme est plus qu'ambitieux. Il est pratiquement mission impossible. Et je pense que c'est peut-être l'une des questions que nous pose ce dialogue entre l'apôtre et son maître. Et Jésus, là encore, bien heureusement, ne nous laisse pas sans réponse. Et il nous connaît si bien, tout comme son apôtre, qu'il nous apporte la clé de ce savoir pardonner. Et il nous y encourage par la parabole qui suit, celle que nous avons lue, celle que nous connaissons en général assez bien, qui suit ce tout petit problème de mathématiques que je vous ai soumis, si on veut. Et il nous y exhorte au travers de cette parabole qu'il offre à Pierre tout comme à nous. Et tout se dévoile à travers une personne dans cette parabole, un personnage. Au travers du comportement du premier des serviteurs, c'est celui que très souvent nous intitulons ou nous appelons ou nous collons l'étiquette de serviteur impitoyable. C'est un peu Clint Eastwood avec ses gros flingues là. Vaut mieux pas croiser son regard. Hein. Si vous lui dites un truc de travers, bim, c'est fini. Il est comme ça, hein, ce serviteur, impitoyable. Ce serviteur, quand nous regardons la parabole, n'arrive pas à pardonner. Pour une somme dérisoire. Hein. 100 pièces d'argent, lui, c'était combien déjà? Ouais, une somme inatteignable. D'ailleurs, après, il est soumis au bourreau jusqu'à rembourser sa dette. Ben, il va être torturé abondamment et éternellement, je crois. Hein. Il ne pourra jamais la rembourser, telle qu'elle est conçue. Il faut plusieurs vies même pour cela. Ce serviteur, oui, n'arrive pas à pardonner en raison d'une chose. Du moins, il me semble. D'une seule chose, pourrait-on dire même. Il n'a pas su mesurer l'étendue de la dette qui lui a été remise. Il n'a pas compris. Il n'a pas su voir cela. Il n'a pas su reconnaître à sa juste valeur, la grâce que son maître, son roi, lui a fait. Ce serviteur impitoyable, est passé complètement à côté du pardon qui lui a été offert. Il n'en a pas pris du tout la mesure. Pour se dire, il a presque ignoré. Ça allait de soi, presque une fois remboursé, oh, normal quoi. Et plus encore, et c'est la conséquence de cette non-mesure de la dette qui lui a été remise, il n'a pas su vivre au jour le jour les conséquences de cette remise de dette. C'est-à-dire d'être à même, lui, de témoigner d'un tel pardon au quotidien, car il n'a pas eu conscience de la grâce qui lui a été offerte. Pourtant, le pardon qu'il devait avoir était sans commune mesure au vu de la dette par rapport à celui dont lui a bénéficié. Et pour autant, là, il échoue. Et cette parabole nous montre là où, quelque part, prend naissance le pardon. Car c'est de là que naît le pardon auquel Jésus nous invite. C'est dans l'étendue de la grâce, de sa grâce même, à la croix, que nous pouvons trouver la force de pardonner à autrui. Et plus encore, il faudrait même le dire comme ça, de pardonner à nos ennemis. Si tant est que nous en avons. C'est en étant conscient de la dette que nous avions contractée auprès de notre propre maître. D'une dette qui était à l'image de ce serviteur impitoyable. Immense. Incapable d'être remboursée. Nous avons une dette, par exemple, en tant que Français. Vous savez, hein, ces histoires de chiffres là, astronomiques, là, puis elle ne cesse de croître. Elle semble là aussi irremboursable. Je ne suis pas du tout financier, je ne comprends pas grand-chose à cela. Mais bon, j'écoute. Et pourtant, je crois que c'est une dette qui est tout à fait remboursable. Au vu de la dette que nous avions devant Dieu. Et pourtant, ces chiffres-là font peur, déjà. Alors, bien sûr, on ne joue pas des mêmes réalités. Mais ce serviteur impitoyable est vraiment là pour nous inviter à prendre conscience que nous avons cette dette. Nous avions cette dette. Peut-être aujourd'hui nous l'avons encore, je ne sais. Et c'est en mesurant, en nous rappelant la miséricorde infinie qui nous est donnée, qui nous est proposée, qui nous est offerte ou que nous avons reçue, gracieusement. C'est en ne négligeant pas la grâce infinie que Dieu nous fait et qu'il continue de nous faire au jour le jour. Parce que même si nous avons été pardonnés une fois pour toutes, cette réalité continue aujourd'hui. Il ne va pas dire à un moment donné, parce que nous avons fait une grosse gaffe, dire « Oh là là, là cette fois-ci j'arrête de te pardonner. » Mais c'est en ne négligeant pas cette grâce infinie que nous pouvons, que nous arrivons, bon, attention, quand je dis « nous », c'est toujours dans la grâce, que nous arrivons pas à pas à pardonner sans mesure. Car tel l'amour de Dieu pour nous, notre amour ne doit pas garder le compte des offenses. Et cela n'est pas toujours évident. Parfois, nous Nous cumulons des dettes, non pas devant les autres, mais nous cumulons leurs dettes. Nous aimons bien les garder. Ça nous rassure, on se dit, ah là là, il me doit encore cela, il me doit tel pardon, etc., etc. Et nous refusons à ces personnes toute idée qu'ils puissent être pardonnés. Oui, notre amour, ah, pardon, je joue des mots là et je me trompe, mais notre pardon doit être constant, sans limite, afin qu'aucune rancune ne subsiste au plus profond de nous-mêmes. Et j'ai encore une toute petite question, et je viens bientôt à m'arrêter, je préférais rester court sur ce message-là. Comment savons-nous que nous avons complètement pardonné ? C'est pas forcément évident, hein, là aussi. Parce qu'on peut vite, d'un mot magique, dire « je te pardonne », puis une semaine après, on recroise la personne, et puis on n'est pas très à l'aise devant elle. Hein. Sommes-nous sûrs de lui avoir pardonné pleinement à ce moment-là ? Je ne sais pas. Mais je vous propose quelques pistes à la question que je vous repose. Comment savons-nous que nous avons complètement pardonné ? À quoi nous pouvons voir que nous y arrivons ? Certainement quand le souvenir de l'offense n'est plus douloureux en nous. Ou alors quand nous pouvons prier aussi pour la réussite de l'autre, de celui qui m'a fait du mal, de celui qui m'a offensé. Quand nous pouvons même aller jusqu'à le bénir. Autrefois, je ne le supportais plus. Et maintenant, je sais que je vis la dimension du pardon tel que Dieu m'invite, parce que je souhaite son bien devant Dieu. Encore un autre indice qui dit que nous vivons le pardon à ce moment-là, c'est quand, avec cette personne avec qui, autrefois, peut-être, ça n'était pas facile. Même être dans la même pièce ne me rendait pas à l'aise. Et peut-être certainement elle aussi, d'ailleurs. Et nous vivons peut-être à ce moment-là le pardon pleinement, nous y parvenons. Nous sommes dans la dimension de ce que Christ veut pour nous quand nous nous sentons de nouveau à l'aise dans sa présence. Alors attention, je ne dis pas que nous devenons super potes et tout ça, hein. Mais quand nous nous sentons au moins déjà à l'aise dans la présence avec cette personne-là. Là, je pense, nous vivons cette dimension du pardon. Là, nous y sommes parvenus. Et nous voyons qu'il y a tout un chemin. Tout à l'heure, je ne sais pas si vous vous en rappelez, parce que j'arrive à conclure, je ne veux pas être beaucoup plus long que cela, mais j'avais laissé en suspens un petit problème mathématique que Jésus nous apportait par une formule. Et puis j'ai dit, il y a deux lectures possibles. Je ne sais pas si vous vous rappelez les lectures possibles. Il y avait d'un côté 77 fois, peut-être un écho à la parole de l'émec, allons savoir, on l'a laissé un peu dans le flou. Ou alors cette autre lecture qui semble être probable, 77 fois 7 fois. Mais alors, je vous pose la question. Ne vous sentez pas obligé de répondre. Hein. Devons-nous pardonner, ou alors 77 fois, ou 70 fois 7 fois, c'est-à-dire 490 fois, hein, pour ceux qui vraiment n'aiment pas les maths, à votre avis ? On a vu Pierre 7 fois, non, ça ne suffit pas, c'est pas grandiose. Mais alors, de ce que Jésus aurait pu dire, quelle est la bonne solution ? Mais j'ai envie de vous dire très simplement que ce n'est ni l'une ni l'autre. Ça n'est pas 77 fois, ça n'est pas 70 fois 7 fois. Ou 490 fois, si vous préférez. Car de prendre à la lettre les paroles du Messie, ce serait, à mon avis, passer mais alors à côté de son enseignement. De toute façon, 490 fois, ça commence à faire loin. Et je pense que si on est dans une logique arithmétique, c'est qu'on passe complètement à côté du truc, très certainement. On se fait juste un peu comme, vous savez, quand on était peut-être parfois puni à l'école. Tu me feras des lignes. Mais on trouve toujours un stratagème pour le faire le plus vite possible sans y penser. C'est juste pénible. Je vois des gens qui font oui. Ah, il y a des gens qui ont connu ça. Moi, je l'ai donné. Hein. Je me suis régalé à dire tu me feras ça, tu feras 100 lignes, etc. Et on voit les têtes après. Mais on n'y pense pas quand on le fait. On veut juste vite finir le truc, on le donne et c'est terminé. On repart faire l'andouille après. Bah, il en est de même si on commence à avoir une logique comptable. Oui, ne regardons pas aux chiffres. Ils ne sont pas là pour nous dire ce que nous devons être, ce que nous devons vivre, mais ils sont là pour nous montrer vraiment ce que Dieu nous invite à vivre. Et de regarder à cela, ce serait vraiment revenir à un esprit de calcul que Jésus nous invite à ignorer. Parce qu'entre 7 et 77 fois, voire 7, 70 fois 7 fois, on reste dans la même stratagème, pour ainsi dire, si on ne voit pas ce qu'il y a derrière et ce qui nous est dit. Aussi, mes chers frères et sœurs en Christ, à vous tous qui voulez vous ancrer, comme moi, en profondeur dans la vie de salut que Jésus nous a offert une fois pour toutes au jour de son sacrifice à la croix, prenons le temps, non pas de compter, mais de nous rappeler en silence, là maintenant, le poids de la grâce de Dieu dans nos vies. Le poids de son pardon afin d'y trouver en lui, en regardant ce qu'il a accompli pour nous, et la force et la sagesse pour parvenir, si nous ne le sommes pas encore assez, à vivre le pardon envers mon prochain, envers l'autre, et pourquoi pas même envers nos ennemis. Aussi peut-être maintenant, faisons simplement silence un instant, avant même de prier tous ensemble après. Notre Père, toi qui règnes dans les cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour et pardonne-nous nos offenses, comme nous voulons aussi, nous, pardonner à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour le siècle des siècles. Amen. Tout à l'heure, il y a parmi les personnes qui se sont présentées, et nous sommes heureux de les avoir avec nous, Anne-Marie et Mathieu avec leurs enfants qui se sont levés aussi et se sont présentés. Et je vais les inviter à venir. Je ne sais pas comment c'est prévu, mais Mathieu, tu as un PDF pour eux. Tu as dû le voir, je l'avais ouvert. Si tu peux peut-être le passer image après image, je ne sais pas, ou je vais leur laisser la télécom, je ne sais pas si ça marche bien. Donc, alors, c'est l'un de vous deux, tous les deux, qui venez. Ouais. Voilà. Je leur laisse la parole puisque pendant un instant, ils vont aussi partager sur leur ministère et je vous invite à les écouter et puis ils vous donneront aussi plus de nouvelles tout à l'heure. Tu veux venir là ? Ok, bah je reste à côté. Okay. Parce que je ne sais pas si ça va suffire.
Alors là, ça marche. Là. Voilà. Donc, bonjour à chacun. C'est en tout cas une grande joie pour moi d'être ici ce matin, avec ma famille. Et certains me connaissent sous le nom de Minard. Est-ce que vous avez déjà entendu ce nom ? Oui. Alors, je suis la troisième fille de Lionel Minard et Gudrun. Et donc, la petite fille de Georges Minard, qui peut-être sera là dimanche prochain. donc un des fondateurs de l'Église. Alors, je suis venue avec ma famille. Donc, je suis mariée à Mathieu Dao, que vous avez vu. Mais c'est pas grave. Siméon, l'aîné, donc, aura bientôt 5 ans. On a Néhémy qui a 3 ans et demi et Mia qui a 2 ans. Cela va faire maintenant un an que nous avons quitté Le Mans pour nous installer en Corrèze, et plus précisément à Ussel. Est-ce que vous savez où est Ussel? Alors, Ussel, en tout cas, c'est une très belle région, la Corrèze, verte, beaucoup de sapins, de chênes, d'êtres, des lacs, mais très peu peuplés. Les gens sont dispersés. Donc là, c'est une carte que Sébastien Fatt a faite, et vous pouvez constater que nous vivons dans une région où il y a très peu d'églises. Vous voyez la flèche? Voilà. L'Île-de-France, on le voit bien. Hein, des... Alors, pourquoi Ussel? Pourquoi on est allé là-bas dans cette région? Alors, nous sommes missionnaires. Nous sommes missionnaires avec la mission MSD. Donc, vous voyez. Donc, c'est le numéro... La suite. Donc là, c'est, en tout cas, sur l'image, c'est donc la carte et avec l'église à Ussel. Alors, nous sommes missionnaires. Donc, MSD, ça veut dire Média Service Diffusion. Et les bureaux, donc, sont à Ussel depuis 1966. Les premiers missionnaires, donc, avaient à cœur l'implantation de nouvelles églises, en tout cas, d'églises, et ont commencé par faire une distribution en masse d'évangiles, des bibles et des calendriers. Ils ont commencé avec les calendriers Bonne Semence et se sont rendus compte que les poches se vidaient très vite. Et donc, ils ont créé un outil qui s'appelle Trésor Caché. Peut-être que vous l'avez déjà vu. Et à partir de là, il y a eu des petites cellules de maison. Et aujourd'hui, on a une église à Ussel. Et 3 implantations, une à Égletton, à Bord-les-Orgues et à Aubusson. Mais qu'est-ce qui se passe à Ussel dans les bureaux? Tous les ans, depuis, le bureau de MSD reçoit, en fait, c'est un dépôt de 120 000 calendriers, environ 8 palettes qui débarquent, environ en juin, et qu'il faut expédier dans toute la francophonie. En plus de cela, il y a environ 10 tonnes de bibles et des calendriers qui partent gratuitement pour l'Afrique. Tout cela se fait avec l'aide d'une personne. Donc cette personne, c'est Jean-Pierre Schmitt, qui a aujourd'hui plus de 60 ans et qui va à la retraite. Et donc c'est comme ça que nous avons eu à cœur de venir le soutenir et de prendre, si Dieu le veut, la relève. Et tout cela se fait, en fait, tous ces calendriers, tout se fait bénévolement, et cela se fait grâce au soutien des églises et aux prières. Et c'est pour ça aussi qu'on est venu aussi, pour vous remercier, parce que sans vous, le travail ne peut pas se faire. Au milieu du calendrier, il y a une invitation, une présentation du message de l'Évangile, et une invitation à poursuivre la découverte de la Bible. Et cela se fait par un cours biblique par correspondance, qui se fait donc, il est en format papier, le premier est fait en format, à l'intérieur, c'est envoyé, et donc Mathieu le reçoit au bureau, c'est corrigé par des bénévoles, et il y a une correspondance qui se fait. Il y a eu récemment une demande d'une dame qui voulait se faire, que ce soit fait par informatique. Et donc, Mathieu s'est arraché les cheveux, mais il en a encore plus que le pasteur, pour justement informatiser, en tout cas mettre sur un logiciel le cours biblique. Donc, aujourd'hui, il existe aussi en format électronique et tout le monde peut le faire via un smartphone ou un ordinateur. Et on a été très encouragés parce qu'en une semaine, on a eu 10 demandes venant de France, mais on a été encore surpris qu'au fin fond du Cameroun, des personnes nous demandent de faire le cours par correspondance. Alors, c'est que Dieu qui sait comment le message est passé et arrivé jusqu'à là-bas. Alors, il y a les personnes reçoivent ces calendriers. La plupart du temps, c'est les églises achètent en grande quantité et les distribuent gratuitement dans les boîtes aux lettres. Bien sûr, on essaye que les églises mettent leur adresse derrière pour être directement contactées. Mais cela arrive que Mathieu reçoit des courriers de personnes qui racontent un peu leur témoignage, disent voilà comment ils ont évolué. Ils encouragent en disant voilà, merci encore pour tout le travail que vous faites. Et on a eu aussi la joie d'avoir des personnes qui nous demandent est-ce que vous avez une cellule de maison quelque part? Est-ce que j'habite à tel endroit? Est-ce que vous connaissez une église? Et on les encourage et on les dirige vers l'église la plus proche. Toujours donc par les calendriers, on propose. Alors, dans les calendriers, bon, je vous ai présenté celui qui est pour les adultes, mais on en a un qui s'appelle Gelé, mais si vous ne l'avez pas, c'est que vous l'avez. Que c'est moi qui l'ai, quoi, je l'ai. Donc voilà, avec un peu un design pour les jeunes, avec des petites réflexions. Et on a celui aussi pour les enfants, avec plus. Ah bah c'est le même. Des coloriages et des petits jeux, avec toujours un verset. Donc ça, c'est les trois calendriers qui sortent, mais il existe aussi en d'autres langues. Là, on l'a en français, mais on l'a aussi en portugais, en espagnol, en arabe, depuis un an, c'est la deuxième année, en arabe, et en allemand, et après italien, espagnol. Il y a une liste. Et récemment, justement, on a des amis vietnamiens, parce que Mathieu avait vraiment à cœur que ce calendrier soit aussi traduit en vietnamien. Donc ce calendrier est déjà traduit, a été fait cet été, mais il nous manque toutes les subventions pour pouvoir l'imprimer pour que en 2019, que les Vietnamiens puissent avoir un calendrier et que le calendrier puisse arriver même au fin fond du Vietnam. Et peut-être aux États-Unis aussi, puisque les Vietnamiens sont partout. Toujours par les calendriers, donc on propose des camps. Donc il y a une plaquette qui explique un peu tout ça, un peu sur le PowerPoint, donc que vous pouvez aussi prendre à la sortie. Et donc on propose donc des camps d'évangélisation. En fait, c'est plutôt les églises qui disent ah ben tiens cette semaine bon là tout ça on aimerait voilà faire une campagne d'évangélisation un peu comme vous avez fait avec Bouge ta France et dire voilà ben on va prendre 1000 calendriers. Et on va les distribuer. Mais on a aussi besoin de jeunes. Donc, on nous appelle, on dit, voilà, MSD, est-ce que vous pouvez venir nous soutenir? Et c'est comme ça qu'on crée, on monte un peu des camps. Chaque année, sont organisés à peu près 20 camps dans toute l'Europe. Il y en a en Italie, en Suisse, en France, en Espagne. Et les camps se déroulent souvent plus en fin d'année, puisque c'est des calendriers. Souvent, ils arrivent qu'en juillet, fin juillet, en juillet. Donc, le temps de mettre tout ça en place. Donc, les camps se déroulent donc fin d'année. Donc là, à la Toussaint, on a deux camps qui vont se faire, du 30 octobre au 5 novembre. On a un camp qui se fait à Saint-Lunaire, où on a trois églises, on va dire, ouais, trois petites églises, qui ont vraiment à cœur de distribuer 1000 calendriers en Bretagne et qui recherchent des jeunes. Et on a une autre église qui est à Delle, donc c'est à l'opposé, et qui, eux, avaient souhaité un groupe, et ce groupe s'est désisté la semaine dernière et se retrouve un peu, voilà, sans jeunes. Donc, ils prient, voilà, que des jeunes. Donc, si vous connaissez des jeunes ou si vous avez envie de vous engager, n'ayez pas peur, le tarif est de 5... maximum 50 euros. Après, il faut faire les frais pour le voyage. Ça, c'est les deux camps qui ont lieu là pour la Toussaint, mais il y en aura encore après. Sur Ussel, on en a un en fin d'année, et il y en a aussi sur Marseille. Et là, Mathieu est en train de refaire le site internet de la mission pour pouvoir avoir une plateforme où tout sera, là sera plus facile pour les inscriptions et pour avoir les informations. Pour terminer, j'aimerais vous faire partager des sujets de prière pour que vous puissiez continuer à prier pour ce travail. On a une grande demande des pays du Sud, en tout cas Madagascar, l'Afrique, ça fait aussi partie, mais l'île de la Réunion, qui demande du matériel pour l'école du dimanche. Ils n'ont pas les moyens d'en acheter, en tout cas au prix qu'on a en France, et souhaitent un matériel qui soit facile pour enseigner 300 enfants, où il n'y a pas forcément du bricolage comme ce qu'on a ici. Et donc, c'est un travail que j'ai à cœur et que je suis en train d'essayer de mettre en place et de voir comment faire. Donc, ce que je disais tout à l'heure, prier pour l'impression pour les calendriers en vietnamien, qu'on puisse vraiment aboutir à ce projet. Des correcteurs, si vous avez envie, si vous avez à cœur justement de faire les corrections pour les cours bibliques, n'hésitez pas à venir nous voir aussi. Si vous êtes priez voilà aussi pour qu'il y ait des jeunes qui s'engagent pour ces camps. Et merci de prier avec nous pour tout ce travail et pour toutes ces paroles de la Bible qui sont semées dans toutes les boîtes aux lettres ou qui sont données main à main. Dieu a encore besoin de nous, a besoin de vous pour l'avancement de son œuvre. Si vous avez des questions, si vous avez des choses, vous voulez voir des choses, nous avons un stand juste derrière et vous pouvez venir nous voir et nous serons disponibles pour parler avec vous. Merci.